La science-fiction est généralement considérée comme étant aux antipodes du réalisme. Or, la science-fiction, si elle use d'un topos relevant de l'ailleurs, de l'autre ou du futur, ne s'inscrit pas moins dans l'imaginaire de son époque. Alors, que dit notre époque anthropocène ? Bien que certains le nient ou d'autres apportent des nuances salutaires sur une responsabilité partagée entre tous les humains, notre espèce a colonisé les écosystèmes sans les ménager, et c'est un euphémisme. Quel que soit l'espace envisagé, son habitabilité est fragilisée par endroits très fortement dégradés par une exploitation intensive, des pollutions et des nuisances résultant pour une large part des modes de production et de consommation dominant depuis l'après-guerre. L'habitabilité peut aussi dépendre d'éléments qui ne sont pas directement visibles et dont les effets ne se font sentir que par accumulation, comme la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, conséquence de plus en plus problématique d'un mode de développement énergivore et de l'enfermement dans une trajectoire thermo-industrielle, pour parler comme le sociologue des sciences Alain Gras. Alors, comment l'humanité va-t-elle faire sans bouger d'un iota, puisque c'est la posture de principe des grandes puissances de notre monde, pour satisfaire ses besoins colossaux en énergie ? Les consommations énergétiques sont-elles condamnées à croître ou peuvent-elles être réduites ? Quel est le prix de l'épuisement des réserves pétrolières ? La littérature et le cinéma nous offrent des horizons hypothétiques, quoique. Par exemple, une régression technologique et politique dans Julian de Robert Charles Wilson, publié en 2011, ou l'ouverture de la boîte de Pandore avec une libération générale de la prédation et de la violence comme dans les Mad Max, une série commencée en 1979 et dont le cinquième opus, Furiosa, sortira en salle cette année, je l'attends de pied ferme. Ou encore une mise en abîme des ambitions à peine voilées de la géo-ingénierie secoue sous temps d'une, dont le second volet, que l'on doit à nouveau à Denis Villeneuve et qui nous a été dévoilé sur grand écran fin février. Issu du livre de Frank Herbert, publié en 1965, plusieurs maisons s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis, également baptisée Dune par ses habitants. Bien que cette planète soit un désert, par principe inhospitalier au delta près des Fremen, particulièrement bien habillés d'ailleurs, je souligne, et de vers géants totalement effrayants, qui eux se sont adaptés. Elle est le lieu de l'épice, énergie nécessaire au déplacement tout autant que puissant, stimulant cérébral. Certaines planètes de cet empire interstellaire disposent de satellites permettant de contrôler la météorologie et d'infléchir le climat. Les Fremen, dirigés par un planétologiste, peut-être un métier d'avenir, espèrent l'arrivée d'un messie, un protagonisme beaucoup moins neuf, qui aidera à transformer ce territoire désertique en un vaste jardin nourricier. Ici, vous le verrez, une seconde figure d'emprunt. Cette macro-ingénierie appliquée à la biosphère qui semble s'ébaucher ici résonne avec des imaginaires démiurgiques, comme s'il était possible de réparer le climat ou tout écosystème vidé de sa capacité vitale. À supposer que les solutions de la géo-ingénierie soient possibles techniquement, elles auraient dans le meilleur des mondes un certain nombre d'étapes politiques à franchir. Et si je pense au meilleur des mondes publié en 1932 par Aldous Huxley, mon cœur déraille. L'écrivain réfléchissait aux dérives que les progrès techniques pourraient amener. La manipulation génétique avait permis de créer une société composée d'êtres identiques, bien gentils, bien rangés, en groupes uniformes et repérables, pour assurer une stabilité et une hiérarchie impeccable. Tout est sous contrôle, hyper planifié, et une drogue contribue tout de même efficacement à asseoir le système. Propre, simple, voire simpliste. En 1958, soit 27 ans plus tard, Huxley fit une relecture de son roman dans un essai intitulé « Retour au meilleur des mondes » dans lequel il écrivit « Les prophéties faites en 1931 se réalisent bien plus tôt que je le pensais ». Il ne s'agit plus de fiction, le monde n'est plus un roman, la bombe H, deux dictatures sans précédent, l'explosion démographique sont passées par là. Et je pourrais réactualiser. 6 des 9 limites planétaires ont été dépassées en septembre 23. Cette même année 2023 est enregistrée comme l'année la plus chaude jamais observée. 150 000 à 260 000 espèces animales et végétales se sont éteintes. 25 pays représentant un quart de la population mondiale sont exposés à un stress hydrique extrêmement élevé chaque année. La fonte des glaces commence à affecter la mesure du temps mondial. Donald pourrait revenir aux manettes de la première puissance mondiale et son collègue Vladimir est collé à son char. Elon étend son empire et la super intelligence artificielle capable de nous faire passer des vessies pour des lanternes est à l'œuvre. Avec tout ça, on a un joli contexte et des personnages hauts en couleur. Il nous manque simplement Aldous Huxley pour se remettre à l'ouvrage. En bref, j'ai mal dormi. Ce qui me fait pencher du mauvais côté de la face énergie des espoirs. Demain sera un autre jour.